Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Pour cet ultime épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir de vous proposer de partager ensemble une conversation avec Paul Vacca. Mais c'est avant cette toute première rencontre que j'ai commencé à faire la connaissance de Paul, en le lisant, tout simplement. J'ai d'abord lu son premier roman, La petite cloche au son grêle, qui m'a conduit le long de ses chemins, sur les bancs de cette classe-là, et dans ce petit café surtout, où parfois les mots manquent, où parfois les mots dansent et changent des vies. J'ai ensuite lu « Délivrez-vous, les promesses du livre à l'ère numérique », un essai qui se conclut en 2046. Tiens donc. Enfin, je me suis plongée dans « Au jour le jour », un roman paru en 2017 où virevolte le quotidien du jeune Eugène. Grâce à ces trois livres, j'ai eu le sentiment de le connaître un peu, Paul, de son amour de la lecture et des mots, de sa conscience de leur pouvoir, de ce qu'ils appartiennent à tous, à chacune, à chacun et avant tout à la personne qui lit d'ailleurs. Ces mots qui sont capables de nous réunir et de changer notre regard sur le monde, rien que ça. C'est donc avec plaisir, vous l'imaginez, que je me suis installée aux côtés de Paul. Nous étions confortablement assis dans le grand salon d'un hôtel, vous l'entendrez parfois au bruit de fond qui entoure cette conversation. Le mot qu'il a choisi, vous le découvrirez dans un instant, mais je peux vous dire que notre conversation a été ponctuée de mots tels que culture, apprentissage, bulle, espace public, résistance, numérique, humanité, et même qu'elle se conclut sur un petit tintement au son clair. Le futur commence ici et maintenant.
Bonjour Paul.
Bonjour.
Merci à toi de m'accueillir à Bruxelles, ta ville depuis
Depuis septembre. Depuis septembre.
Alors Paul, tu es écrivain, puis tu écris également dans des magazines, tu écris des romans, des essais. Juste une petite question comme ça, comment es-tu tombé dans l'écriture ?
Oh, c'est difficile à dire, ça a été un processus un peu long finalement. Je ne m'y suis pas mis dès le début, j'ai toujours bien aimé, j'ai fait des études littéraires, j'ai toujours bien aimé. Et puis, c'est vrai que j'ai fait divers métiers, divers et variés. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à écrire. Puis après, de fil en aiguille, c'est devenu mon travail.
Tu as choisi pour notre conversation un thème, un mot, le mot sociabilité. Évidemment, je suis allée chercher, essayer de me nourrir autour de ce thème, de ce mot-là, ce que l'on pouvait y trouver. On y trouve des questions de réseau, d'aptitude à vivre en société, ce qui fait société. À partir de ce mot, on va se plonger vers 2050. 2050, c'est maintenant dans 31 ans.
Ouais, c'est ça.
Oui, 31 ans. Et donc, j'aimerais qu'on se plonge directement dans cet univers. D'ailleurs, 31 ans plus tard, qu'est-ce que ça voudra dire, ce mot sociabilité ? Quelle réalité il pourra recouvrir ?
Ah, écoute, c'est compliqué parce que c'est vrai que toujours l'exercice, finalement, je dirais que c'est plus facile de se projeter dans 31 ans parce que personne ne sera là pour voir si on a dit, n'importe quoi.
Le podcast restera.
Oui, voilà. Bien sûr, il est éternel, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, du coup, dans 31 ans, c'est très, très compliqué de dire. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui tirent des tendances sur l'avenir, mais souvent, justement, se basant sur l'évolution du passé. Donc, souvent, bon, voilà. Non, l'idée, c'est vrai qu'on peut se dire souvent par rapport à ça, il y a des scénarios qu'on peut évaluer, et suivant la personnalité, je dirais, c'est comme ça qu'on voit l'avenir, mais comme on voit le présent aussi. Certains voient le présent aujourd'hui comme étant complètement dystopique, et c'est vrai qu'il y a certains éléments qui peuvent l'être, et puis d'autres qui voient que le côté positif. Donc après, on peut avoir des lunettes différentes par rapport à 2050. L'idée, c'est de se dire, bon, moi, ce qui me semble, toujours quand on se projette vers le futur, c'est de se dire que finalement, on a plus de chances de se tromper en étant pessimiste que si on est optimiste. Parce qu'en fait, le pessimisme, le pire n'arrive jamais, parce qu'en fait, on a toujours essayé de se dire, voilà, le pire va arriver. Et si on tire la tendance, on peut se dire, oui, on est en décadence, on est toujours plus en décadence. Et puis finalement, quand on regarde derrière, c'est ce que disait Michel Serres, on peut faire donc une sorte de petit hommage, lui, qui est parti récemment. Donc, l'idée, c'est que lui, il disait, oui, il y a rien, c'était pas mieux avant. Et moi, je crois que c'est vrai que, avant, on a tendance à se construire des paradis qui n'existaient pas. Tu vois, par exemple, fait avant le numérique, on disait que, finalement, tout le monde se parlait. Moi, pour avoir vécu très amplement la période pré-numérique, j'ai une bonne expérience de l'époque pré-numérique, c'était pas du tout le cas. Bon, et tout le monde ne lisait pas non plus, pareil, par rapport aux livres. Bon, donc du coup, moi je pense qu'en projetant, si on veut se mettre en 2050, c'est pas la peine d'avoir le schéma qui serait le plus reptilien possible, c'est de se dire, voilà, on sera tous numérisés, on n'aura que des robots autour de nous, on se parlera plus et tout. Bon, ça c'est un scénario qui est pas intéressant. En revanche, comment la sociabilité, comment la façon de vivre ensemble va être maintenue par rapport quand même à la pression de tout ce qui est numérique, parce qu'on voit que toutes ces choses-là, voilà, ça c'est ça, c'est ça l'enjeu, c'est comment l'humain continue à perdurer par rapport à des pressions technologiques, quoi, en fait. Parce que la technologie, elle pousse quand même à déshumaniser. Bon, ben, on a l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux, avec tout ce que ça a pu apporter, puis maintenant on se rend compte de tout ce que ça, tout le négatif que ça engendre, en tout cas en termes de sociabilité. De plus en plus, certains parlent de réseaux asociaux et tout ça, c'est-à-dire que voilà, qu'il y a une sorte de dysfonctionnement propre. Par exemple, c'est le cas de Twitter, où on voit qu'évidemment, il y a une réduction au tweet et à l'instantanéité qui fait que voilà, on a du mal à vivre ensemble. Donc du coup, moi j'ai envie de dire voilà, c'est plutôt une énigme. C'est comment on va continuer à être toujours à vivre en société, à vivre en sociabilité. En tout cas, bon, il y a aussi d'autres choses qui sont plutôt réjouissantes, c'est que malgré la montée du numérique, tout ça, moi, il me semble que il y a quand même toujours le côté qui perdure, c'est, par exemple, prenons dans la musique, par exemple, le concert qui existe toujours. On a parlé tout le temps de la numérisation, du piratage et tout ça, on n'a jamais eu autant de concerts, autant de besoins de, finalement, ce que moi j'appelle l'analogique 2.0, c'est-à-dire de redécouvert de l'analogique, mais malgré le vinyle, par exemple.
Et puis du partage aussi.
Et du partage. Du partage de l'expérience, exactement, du partage en même temps, du partage réel, voilà. Et ça, on le voit partout, en fait, on le voit. Ben, le livre, on participe aussi, il n'est jamais vraiment disparu, comme on a eu peur pour le... Les industries musicales ont eu peur. Là, on voit que, par exemple, le livre, il perdure malgré toutes les facilités, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir. Le livre numérique, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, et encore une fois... Il suffit de voir à mon époque, donc à l'époque pré-numérique.
Au siècle dernier, tu veux dire.
Au siècle dernier, exactement. et ben, écoute, tout le monde ne lisait pas. Je veux dire, c'est une vue de l'esprit de dire qu'avant Twitter, avant, les jeunes se parlaient tous et lisaient tous. Et donc, du coup, moi, je pense que, alors, on pourrait se dire, mais c'est pas grave. Non, si, c'est très mauvais de donner cette image-là. Parce que ça donne une image de déclin, alors que c'est faux. À l'époque, dans ma classe, je parle même, moi, après, j'ai fait des études littéraires, mais même en études littéraires, on ne lisait pas tous 10 livres par semaine, quoi. Et même pas, on n'était pas tout le temps en train de lire. On lisait utile quand c'était les études littéraires, mais je parle même du cursus normal avant de rentrer dans le cursus littéraire. Dans ma classe, on devait être... Moi, j'étais même pas dedans. Au début, en troisième, je lisais rien, à part des BD, j'écoutais du rock, on jouait au flipper, on faisait des choses, et on s'ennuyait. Bon, ça, c'est peut-être la grosse différence. On s'ennuyait à plusieurs, on s'ennuyait seul et tout, mais on relisait les mêmes BD, on faisait... Mais du coup, on n'était pas tous à lire. Et donc, l'idée qui voudrait que dans le passé, on lisait plus, on était, c'était ce que j'appelle un peu, moi, le paradis pré-numérique, quoi. On s'est inventé une sorte de paradis d'âge d'or pré-numérique qui n'existe pas. Et ça, à la limite, c'est mauvais parce que ça engendre une fausse tendance en disant, ben voilà, on va vers le... On lit moins, les gens ne s'intéressent plus à la lecture et tout. Alors, en revanche... C'est vrai que maintenant, c'est compliqué de se dire, voilà, il y a un moment, il y a Netflix, on peut être tenté par d'autres choses, et que rentrer dans un livre, c'est compliqué. Cela étant, on voit qu'il y a quand même des gens qui continuent de lire.
Oui, et puis dans les transports en commun, moi je regarde dans le métro, on voit beaucoup de gens avec des bouquins.
Complètement, voilà, ils sont pas que... Alors voilà, il y en a beaucoup qui sont sur l'écran, mais bon, c'est normal. Avant, c'était le journal, maintenant c'est l'écran, bon voilà, c'est... C'est des choses qui changent. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il y a des choses, alors justement pour revenir au thème, qui font que ça perdure, et que moi j'ai une certaine croyance dans le fait que plus l'horizon se numérise, plus finalement, paradoxalement, on a besoin de contrebalancer par des expériences de société. C'est-à-dire que, et du coup, ben, c'est ce qu'on voit pour les concerts, c'est ce qu'on voit pour des rassemblements, c'est ce qu'on voit pour des festivals, il n'y en a jamais eu autant. Il paraît qu'il n'y a jamais eu, pareil, en Angleterre, je disais ça la semaine dernière, jamais eu autant de festivals littéraires. Mais à base de, pas justement comme en France, des salons, des vrais festivals, quoi, si j'ose dire, où là, il y a des débats, ils viennent rencontrer pas que pour des signatures, mais pour des débats, et donc ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin d'échange, quoi. Et que celui-là, il existera même si, comment dire, le numérique continue de progresser.
Oui. Alors on sent cette tension entre sociabilité, ces interactions humaines et cette tension liée autour des outils numériques. Justement, en recherchant un peu la genèse de l'utilisation du terme de sociabilité, un sociologue, j'ai pas noté les noms, hein, je vais pas faire semblant d'être une experte. En tout cas, ce que je trouvais intéressant, il disait l'expérience la plus pure de la sociabilité, en théorie, c'est la conversation. L'art de la conversation. Est-ce que justement, cet art de la conversation, il n'est pas en danger? Tout à l'heure, tu évoquais Twitter qui a ses limites du nombre de mots, de caractères. Et converser, c'est déployer, c'est être dans la digression, c'est le temps. Et ce temps, est-ce qu'on l'aura encore en 2050 ou on saura se l'autoriser?
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, alors évidemment, il y a une perte, mais j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est aussi parce que, tu vois, l'art de la conversation, c'était aussi lié à un moment donné à des règles aussi, des règles de sociabilité. C'est-à-dire qu'en fait, la conversation ne naît pas de façon, tu vois, par exemple, des salons, que ce soit au 17e ou 18e, c'était parce que c'était des lieux où, justement, on se disait, tiens, il y a une conversation qui va pouvoir se faire. C'est-à-dire que c'est le cadre qui crée la possibilité conversationnelle, si je veux parler un peu savant, quoi. Mais l'idée, c'est que, en fait, c'est vrai que le cadre de Twitter ne permet pas... Alors, attention, il permet à petite échelle, parce que tu as quand même des moments où tu as des moments de grâce qui y a sur les réseaux sociaux, des échanges comme ça qui arrivent, qui sont spontanés. Alors, ils sont rares, mais ils existent. Bon, mais cela dit, le cadre n'est pas là. En revanche, je crois que, regarde, il y a beaucoup de renaissance de tout ce qui est la rhétorique. Alors, je différencierais quand même rhétorique et conversation. Quand tu parles de conversation, c'est beaucoup plus riche, parce que c'est de l'échange, la conversation. Et c'est la rhétorique... Pourquoi ça fonctionne et ça cartonne même aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un effet, pour dire vite, un effet compétitif, quoi. Et alors, en même temps, je trouve ça très bien, parce que, bon, qu'on maîtrise le verbe et tout, mais il y a quand même la course à celui qui va parler le mieux. Toute la conversation, là où je te rejoins, c'est je trouve que là, il faudrait la réhabiliter au sens lui donner, à la limite, plus à la conversation qu'à la rhétorique. Parce que la rhétorique, c'est aussi le pouvoir. C'est alors bon, il y a eu pas mal de choses là-dessus en disant voilà l'arme rhétorique c'est très intéressant. Alors je pense que c'est intéressant parce que justement il faut enseigner aussi la rhétorique parce que du coup on peut avoir des armes anti-rhétorique.
Oui, voilà, on peut la déconstruire.
On peut la déconstruire exactement et déconstruire les avoir cet esprit critique qu'il faudrait avoir et tout. Mais d'un autre côté, la conversation, ça s'inscrit dans un cadre plus large où il y a un intérêt commun à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, t'as institué, comme pour le tennis, à la limite, t'as institué une règle qui est, voilà, on va jouer comme ça. La conversation, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conversation, c'est ça comme but d'être lui-même, en fait. C'est de créer de la conversation, on est à plusieurs et tout, donc il y a déjà une sociabilité dedans. Le problème, c'est que, alors ça, c'est ce que j'évoquais un peu dans mon essai, je vais faire un peu de promo, mais dans la société du hold-up, c'est la difficulté de trouver un espace commun aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus. Alors, j'étais pas non plus précurseur obligatoirement, mais l'idée, c'est que ça fait que d'aller en plus. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, le cadre global existe de moins en moins. C'est-à-dire que, on dit oui, il faut penser collectif, mais le problème, comment penser collectif dans un monde où rien n'est collectif, en fait? Où, voilà, il n'y a plus de structure, au sens où, c'est difficile de, oui, tout est un peu atomisé. C'est ça un peu le problème.
Alors, j'aime bien quand tu utilises le terme d'espace. Moi, je vais l'utiliser à un terme très, très premier degré. Il y a pas mal d'auteurs de science-fiction qui, lorsqu'ils se projettent dans le futur, abordent la question de l'espace public qui, justement, est totalement privatisé ou ce n'est plus un espace que l'on peut occuper, c'est uniquement un espace de passage où les pouvoirs empêchent les gens de rester, d'occuper cet espace public. Et justement, si on l'abandon de l'espace public, c'est aussi le risque d'abandonner ces espaces de sociabilité qui sont peut-être les plus ouverts, les moins enfermés dans cette logique de club où il faut avoir sa carte de membre, son pédigré pour rentrer, etc. Et c'est aussi peut-être un enjeu pour le futur de garder l'espace public dans toute cette richesse.
Ah oui, complètement. Moi, je pense que et tu vois, l'espace public, ça me fait penser à une des choses. Bah, avant qu'on prépare l'émission, je t'avais parlé de la trottinette.
Oui. Bon,
mais l'exemple. Alors là, pour le coup, si tu veux, pour moi, c'est une cristallisation de l'espace public aussi. C'est-à-dire que l'espace public, il est privatisé non pas seulement par les Facebook, les GAFA pour aller vite et tous les grands méchants capitalistes qui est un, mais aussi par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vois très bien que dans la façon de conduire, et c'est pas dû à la personne en tant que telle, c'est à partir du moment où elle chevauche une trottinette, c'est que la trottinette c'est en elle-même un outil pour dépasser les autres, pour se faufiler. C'est-à-dire en fait, on est dans un espace public qui a déjà du mal à dimensionner. Parce que bon, il y a le trottoir qui théoriquement devrait être un peu sanctuarisé pour, pour les piétons et les crottes de chiens, en gros, hein. Donc en gros, c'est ça. Et ensuite, le problème, c'est que t'as le vélo qui lui a un espace déjà un petit peu mixte, et tu rajoutes là-dedans avec la voiture qui elle-même, bon voilà, n'est pas, et tu rajoutes un élément qui vient lui complètement perturber cet espace public, parce que deux vecteurs vraiment dingues, c'est que d'une part c'est hyper privatisé, c'est-à-dire c'est vraiment je circule comme à pied mais vite, c'est-à-dire que je viens, c'est fait pour doubler parce qu'en fait c'est pas fait pour aller derrière une voiture, c'est pas fait pour aller derrière un vélo, c'est pas fait, bon, et du coup c'est vraiment fait pour s'offiler. Donc en soi c'est déjà un outil de risqué, je dirais, et d'anti sociabilité, mais c'est déguisé en sociabilité, parce que c'est mobilité douce, entre guillemets, tout ça. Bon, alors sans rentrer dans toute la pollution que ça engendre et tout, alors ça, en plus, derrière, le bilan, il est totalement catastrophique, mais si on le prend juste comme vecteur de trouble de l'espace public, c'est que je pense qu'on le privatise tous, l'espace public, c'est-à-dire que maintenant, on pense plus l'espace public, en fait. Alors, c'est pour ça, sociabilité, ça dit aussi civilité. Et alors, bon, après, moi, le problème, c'est que c'est pareil, l'âge aidant, on a tendance après à voir que les gens se tiennent moins bien qu'avant. Bon, il y a un côté obligatoire, mais je pense que c'est un sentiment que je partage, que d'autres même jeunes générations sentent aussi, que il n'y a pas obligatoirement, le problème, c'est pas que les gens soient mal polis, c'est qu'ils ne pensent pas à l'autre, quoi. En fait, on a vu même des gens qui parlent, par exemple, ils sont à vélo, ils disent, non, mais si je prends un vélo, c'est pour être libre, justement, c'est pas pour être comme les voitures. Et donc, alors, l'ennemi, c'est la voiture, donc eux sont dans le camp du bien. Si je prends un vélo, c'est pour être libre, donc c'est pas pour m'arrêter. C'est la fluidité. Bon, voilà, ils vont te déguiser la chose en espèce de vision de la vie, quoi, qui est au service de tous, parce que c'est pareil, attention, moi je circule en voiture, je ne pollue pas, donc je circule pas en trottinette ou en vélo, voilà. Et donc, et tout ça, c'est la même chose, c'est la prise en compte, là on prend pas en compte l'autre, parce que je pense qu'on est en train de digérer une sorte de privatisation de l'espace, quoi. Et je pense qu'on devient tous. Alors attention, je me mets pas en dehors parce que je pense que voilà, c'est un phénomène qui est tellement à l'œuvre que moi-même je me surprends à être pas être poli, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais il y a des moments, je me dis, mais j'aurais pu être beaucoup plus poli que ça quand même, tu vois.
Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'au début du 18e, là, quand il y a eu la première définition a priori du mot socialité, dedans il y avait des notions de bienveillance, de partager son bonheur avec celui des autres, et donc ouais, c'était ce soin de l'autre, en fait.
Ce soin, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on est dans une sorte de privatisation. Alors ça va énormément aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est pareil, maintenant, les parents, pour la carte scolaire, tout ça, ils sont prêts à se battre pour mettre... Alors, chacun dit, j'ai des principes, c'est dommage, mais je vais devoir y déroger, parce que, bon, en ces cas-là, c'est pas tes principes, hein. Ça rappelle la phrase de Groucho Marx... voilà mes principes, si ça vous arrange, je peux en changer, quoi. Bon. Non, parce que les gens, c'est génial, quand même, qui te disent, ouais, c'est pas dans mes principes, mais j'ai fait ça. Ben non, mais du coup, c'est pas tes principes, quoi. C'est parce que par principe, justement, le principe, c'est de pas déroger, quoi. Mais bon, mais du coup, ouais, c'est ça qui est assez, la course au... Alors après, ça vient se mettre aussi sur la course au QI, la course au truc. Bon, je trouve que voilà, il y a... Alors, on va dire, oui, ça a toujours été cette compétition. Oui, mais c'est vrai que que tu amenais à l'idée de privatisation, je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est tous, on ne voit plus... Alors, est-ce qu'on a vu un jour l'espace comme un espace commun ? Ça, je me pose aussi la question. Je pense que plutôt, on était peut-être, je ne sais pas, on était... Il y avait une règle commune qui était que... où on provoquait, où on restait en sociabilité. Aujourd'hui, on se demande, à la limite, on se dit pourquoi on serait sociable, quoi. C'est-à-dire, c'est ça plutôt la question. Voilà, c'est pareil, une autre phrase de Groucho Marx, pourquoi je me soucierais des générations futures ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi, quoi ?
Ouais. Donc, dit comme ça, c'est implacable.
Voilà, c'est ça. Tu dis, voilà, mais du coup, voilà. Et donc, voilà, c'est. Et, mais bon, je pense que là-dedans, il n'y a pas de côté moral, hein. Il y a un côté, je pense que c'est. C'est une structure globale qui nous gouverne un peu tous. Et alors, après, à l'intérieur, évidemment, il y en a qui sont plus respectueux du sens commun et tout. Mais en même temps, tu te dis, pourquoi le serait-il, tu vois ? Pourquoi le serait-il ? Parce que rien ne récompense dans ce sens-là.
Et est-ce que tu penses qu'on peut, dans l'avenir, sortir des sociabilités de classe, c'est-à-dire qu'on avait les clubs de gentlemen ? On avait le bistrot du village où c'était plutôt la classe ouvrière ou les paysans qui étaient dans leur sociabilité, les clubs de femmes, etc. La sociabilité s'est toujours faite un peu dans des bulles.
Complètement.
Qui sont aujourd'hui parfois renforcées par les outils numériques. Est-ce que c'est jouable d'imaginer un futur où justement on arrive à sortir de ces bulles et pour avoir des sociabilités nouvelles qui soient plus accueillantes.
Oui, alors ça, j'aimerais. Quoi, j'aimerais oui.
L'utopie,
ça serait là. Le problème, c'est... Voilà, ça pose une bonne question. Est-ce qu'une sociabilité peut se faire en dehors d'une bulle ? C'est aussi la question que je me pose. Parce que même la sociabilité généreuse... Alors ça, tu le vois, mais très nettement dans les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les gens qui ont la main sur le cœur, ils passent leur temps plutôt à dézinguer le FN qu'à parler du truc. Si tu veux, à un moment donné, ils se construisent aussi contre un autre modèle. Je dis pas que c'est pas bien, hein, et qu'ils sont pas. Mais à un moment donné, la générosité, elle se met aussi en avant, elle est mise en et si tu veux, elle se construit aussi malgré tout sur une sorte de communauté. C'est problématique. Tu vois, par exemple, l'Europe rencontre ce problème-là. Comment tu peux être... Alors, tu as une sociabilité qui se fait, qui est transnationale à travers, par exemple, des générations, des goûts particuliers, des choses comme ça, mais elle se fait toujours dans un espace un peu de bulle.
Oui, c'est ça. La sociabilité du quartier, du village, de la paroisse...
Voilà. Alors, en même temps, elle existe, et puis en même temps, elle est très détruite, parce que ton voisin, c'est aussi ton pire ennemi de temps en temps. C'est aussi... Tu vois, et à la limite, si ça serait pas ton voisin, tu l'aimerais bien, il se trouve que c'est ton... On est toujours un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de se trouver, même à l'intérieur de ces bulles-là, un niveau de sociabilité qui fera que, qu'est-ce qu'on a en commun, quoi. C'est compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là où tu poses la bonne question, c'est que tu te dis, comment on pourrait trouver un dénominateur commun le plus large, mais qui soit quand même structurant ? Parce que sinon, dire, moi, j'aime tout le monde, c'est... Alors, en même temps, c'est génial. Moi, je pourrais dire ça aussi. Je pourrais dire, demain, il faudrait qu'on s'aime tous. Mais le problème, c'est de se dire, mais comment on peut arriver à construire quelque chose autrement que dans la confrontation, hein, et comment on fait que... cette confrontation soit un peu coupée, parce que tu vois même aujourd'hui les essais de sortir de, comment dire, ce qu'avait essayé de faire Macron, de sortir du clivage, il en recrée un qui est encore plus fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le clivage est encore plus fort. C'est progressiste contre populiste, donc ça veut dire qu'en gros, tu es entre deux doxas complètement enfermantes, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est la question de la sociabilité. Alors, elle commence à l'échelle individuelle, hein, c'est vrai qu'il faut déjà... et je pense que peut-être un peu bêtement, mais elle commence peut-être par... Juste le respect, elle pourrait commencer à minima, disons, par le respect minimum. C'est-à-dire que, effectivement, pas aller dans l'indignation pour le moindre truc, pas aller... et déjà, de faire que des espaces qui sont comme Twitter, qui sont privatisés, parce que voilà, évidemment, c'est des boîtes, mais c'est quand même aussi un espace commun. Et on l'oublie souvent, c'est-à-dire que voilà... il faut le traiter comme si c'était un espace commun. Est-ce que je ferais ça ? Est-ce que je mettrais ça ?
Est-ce qu'on peut peut-être imaginer qu'il y ait un apprentissage, en tout cas, que chacun, à l'avenir, ait une conscience aussi de ces voilà, des contraintes ou des facteurs qui font sociabilité ou pas. Et déjà, en ayant conscience du fait qu'on fonctionne, on se sociabilise dans des bulles, en avoir conscience, ça donne au moins ce point de vigilance qui permet parfois de, voilà, de lever l'œil au-dessus et d'apprendre. On avait remplacé les humanités par les sociabilités.
Oui, mais c'est très juste. C'est-à-dire, déjà, ne serait-ce que savoir qu'on est dans une bulle, c'est déjà en sortir dans une certaine mesure, parce que tu parles à une autre bulle. Rien ne t'empêche. C'est moi j'aime beaucoup ça, moi, c'est parler justement avec des gens, mais chacun sait qu'il est dans son univers. Le pire, c'est de penser que on peut s'en extraire complètement. Moi, je crois que non, c'est-à-dire qu'en fait on s'en extrait pas. Après, c'est justement, tu vois, c'est comme dans les films, justement un des vecteurs narratifs les plus puissants, c'est la comédie romantique, c'est-à-dire deux personnes qui sont dans des bulles très très différentes, c'est-à-dire ces deux personnes qui n'ont rien en commun et qui même se détestent, quoi. Alors c'est valable aussi bien sur les histoires d'amour type hétérosexuel, mais aussi les buddy movies où c'est les amis, quoi, des deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble, et donc du coup, et là où c'est le plus payant humainement et le plus payant émotionnellement, c'est quand ces bulles se cassent, quoi. C'est, ou alors non, qu'elles restent, mais qu'elles prennent conscience l'une de l'autre, quoi. Et je pense qu'on devrait être dans un buddy movie, tu vois, plutôt dans ce style-là, c'est de se dire, bon, bah, ok, toi, t'es pas du tout comme moi, blaguer un peu déjà dessus. Je pense que déjà, l'humour, c'est déjà une première, c'est déjà un prérequis. Parce que sans humour, je crois qu'on n'y arrive pas. On n'arrive à rien, de toute façon. Je pense que c'est la base. Déjà, t'as l'humour, c'est le prérequis. C'est même si tu peux parler de ce dont tu parles, mais sans prendre la tête à l'autre. Déjà, ça, c'est déjà la première base. C'est-à-dire de dire, bon, voilà, tu peux avoir un truc, mais si tu le mets en dogme et tu n'as pas d'humour par rapport à ce que tu es, ça, c'est déjà, c'est fini. Et après, se dire que malgré tout, bah, écoute, l'autre, il ne pense pas comme ça. Ce n'est pas la peine d'en faire non plus un motif de clash. Parce qu'en plus, c'est des clashs qui sont un peu faciles, dans le sens. Parce que, voilà, si tu vas t'opposer sur l'autre, alors sans aller jusqu'au point Godwin, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, voilà. Et après, comment on peut sortir un peu de ça? Et c'est vrai que, bon, bah, l'idée, ce serait un peu, voilà, que les gens prennent conscience quand même de la bulle dans laquelle ils sont, mais qu'ils essaient d'en sortir. Et c'est ça qui est le plus beau, quoi.
Oui, c'est ça. C'est le challenge le plus intéressant et qui nous fait grandir. Je voudrais revenir à la tension avec les outils numériques, parce que on voit aussi émerger des sociabilités qui deviennent concurrentielles. Alors, l'expression, je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, ça, j'ai en tête, par exemple, en Chine, où ils expérimentent les notes de citoyenneté avec des étoiles, ou je ne sais pas, voilà, où en gros, c'est notre notation qui fait notre capacité à atteindre peut-être un niveau supérieur de sociabilité, et donc la sociabilité qui, à la base, elle est dans cet échange sans enjeu de gagner quelque chose, là, on rentre dans un truc concurrentiel, quoi.
Oui, ben oui, et puis même.
Et ça pourrait proliférer d'ici 2050.
Oui, alors oui, tout à fait. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est toujours, c'est quand c'est encadré, quoi, tu vois. Alors, ça existe un peu dans ce sens que c'est un peu ce qu'on appelle les influenceurs ou les, même si c'est pas contrôlé, ou même les gens qui ont un pouvoir médiatique, un peu, voilà, ça joue un peu là-dessus aussi. C'est-à-dire que on imagine qu'ils ont de toute façon un pouvoir plus grand de et donc des responsabilités plus grandes aussi, hein, si on prend un peu le phénomène l'axiome de Spider-Man, quoi, tu vois, plus grande responsabilité, plus grande. Mais c'est vrai que du coup, là, il devrait y avoir une responsabilité un peu plus grande. Moi, je pense aussi dans la façon un peu de se comporter, que ça soit journaliste ou homme politique, d'être un petit peu plus dans ce qui traverse. Mais c'est vrai que oui, ces notations, tout ça, ça peut faire peur. Et puis ça, c'est assez flippant.
Oui, surtout que ça donne accès à des droits plus ou moins étendus ou pas. Donc
c'est, voilà. Ça, c'est un des trucs. Alors moi, c'est marrant, j'y crois moyennement à ça. Mmh. Parce que je pense que, si tu veux, il existe de facto un peu ce phénomène-là. C'est-à-dire sans que ça soit vraiment dit. Alors on dit, oui, c'est pas le nombre de followers, c'est vrai. C'est pas obligatoirement. Parce qu'on dit, alors oui, par exemple, les réseaux sociaux ont commencé à se rendre compte que le like était un peu mortifère dans son approche et tout, quoi, pas dit comme ça, mais que c'était, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est ça qui fait aussi, qui a fait marcher, c'est-à-dire que Facebook, quand il a inventé le like, c'est le truc le plus génial qui a été inventé, même plus que la crypto-monnaie qui va faire le Libra. Mais non, non, parce que c'est vrai que c'est central à leur truc. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il dit, oui, on va arrêter de mettre Twitter, il voulait faire ça, on va arrêter de faire le like. Déjà, quand il a fait le like, Twitter, il a commencé déjà à faire une connerie. Le début, c'était vraiment bien, c'est quand tu n'avais que le retweet et tu prenais la responsabilité du retweet. Là, il est complètement perturbé. Bon, mais alors ça, je crois plutôt à l'humain qui après, trouve des moyens de détourner ce système-là. Tu vois, j'ai pas plus d'infos sur l'avenir que les mecs. D'ailleurs, ils n'en ont pas plus que moi non plus, que ceux qui prédisent l'IA. La seule chose, c'est que en revanche, le scénario qu'ils donnent est faux, parce qu'ils partent d'un principe qui est que l'intelligence telle qu'elle va être développée par les robots, c'est-à-dire est obligatoirement quelque chose de néfaste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'eux-mêmes pensent l'intelligence comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur projection. Et pareil pour la notation. Alors, des pays comme la Chine, à la limite, oui, parce que c'est rentré dans leur logiciel.
Ça correspond à un logiciel autoritaire.
Autoritaire et tout. Alors, aujourd'hui, te dire que l'État ne fera pas du tout ça, bon, moi, je pense que ça se passe pas par rapport aux réseaux sociaux, ça sera autre chose, hein. C'est autre chose, d'ailleurs. Ça l'est, déjà, mais autrement. Mais c'est plus informel, disons. Mais je pense qu'il y a quand même, aussi des choses qui sont de l'ordre de la notation. On a toujours été noté socialement. Tu vois, ça c'est à la limite, on devrait voir le truc à rebours, c'est qu'on a toujours été un peu noté, quoi.
Pour revenir justement à ce côté très humain que tu mets en avant, face à je reviens encore à cette tension face au numérique ou à la tension du pouvoir qui essaye d'avoir un regard toujours plus présent sur les uns et les autres, est-ce que ces sociabilités qui font humain, comme là nous on se rencontre, ça peut devenir une forme de résistance justement, une forme de résistance, de radicalité par rapport à des outils qui nous éloignent, qui malgré la promesse de nous rapprocher, nous éloignent quand même les uns des autres.
Ouais, tout à fait. Moi je pense que ça fait partie du... moi je pense que par exemple la lecture, c'est un type de résistance, mais au sens où... pas au sens de résistance à l'avenir et à la technologie, c'est finalement faire perdurer le côté d'enrichissement, parce que le livre, alors on le voit comme quelque chose de personnel, d'ailleurs c'était vu comme ça avant, c'est-à-dire à la limite, tu sais, il y avait une image avant qui était plutôt celui qui lisait, c'était le geek de l'époque, c'est-à-dire qu'il était dans la lecture, oulala, il est enfermé dans son monde. Alors que, au contraire, c'est une façon au contraire. Exactement, il est ouvert sur le monde. Et voilà. Alors, et du coup, je pense que ça fait partie de, surtout d'avoir des choses à partager et à s'enrichir. Alors, c'est vrai que ça passe aussi, je pense aussi, par un enrichissement un peu personnel, qui est par la lecture, par la culture. Bon, moi, je crois beaucoup, comme tout le monde, je pense que c'est un peu une banalité, mais la culture comme étant le vecteur. Alors, cela étant, la culture comme pas obligatoirement l'intelligence, c'est-à-dire que voilà, le problème c'est que l'intelligence est plutôt segmentante dans sa façon de présenter. La culture a priori devrait être quelque chose d'ouvert, encore faut-il la vivre comme ça. C'est pareil, la littérature, faut la vivre de façon assez ouverte, je pense aussi la lecture, la façon d'appréhender les textes. Alors et c'est vrai que ça fait partie d'un tout qu'on doit maîtriser un peu, parce que bon, en même temps, être complètement en dehors des réseaux sociaux, j'ai presque envie de dire ça, c'est presque un privilège de classe, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui sont déjà très connectés socialement, tu vois, souvent, je cite Bec Bédé, que par ailleurs, j'aime beaucoup comme personnage, parce qu'il est très sympathique. Mais il dit, Facebook, c'est nul et tout. Mais lui, il n'a pas besoin de Facebook. Il est lui-même Facebook. Je veux dire, il est ultra connecté. C'est déjà, les gens qui sont déjà ultra connectés, c'est presque leur dire, oui, mais les réseaux sociaux, c'est que des cons qui parlent. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dire à Umberto Eco, mais qu'il l'a dit une fois, mais c'est une des petites choses qu'il a dites comme ça, au détour, mais il pensait pas ça sur obligatoirement l'ensemble des réseaux sociaux. Il a dit oui, Twitter, c'est un con qui peut parler autant qu'un prix Nobel, mais c'est pas, c'était vraiment un petit extrait. Et du coup, maintenant, on le sort tout le temps en disant voilà, il aurait été contre Twitter, parce que je pense qu'il avait une vision beaucoup plus complexe et plus subtile que ça. Et je pense que c'est plus subtil que ça aussi. Mais l'idée, c'est que dire aussi. Se déconnecter complètement, et il y a toute une éthique de la déconnexion. Ça va quand t'es à la Silicon Valley, justement. Tu peux te le permettre quand t'es dans les milieux, effectivement, où t'es déjà ultra connecté socialement. eux n'ont pas besoin de ça. C'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi une fracture, et je dirais que c'est une fracture numérique, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, se déconnecter, c'est presque c'est le luxe.
Oui, je pense qu'il y a un véritable enjeu d'éducation autour de tout ça, de redonner plus de place à la culture. Alors ça va aussi à contre-courant. Aujourd'hui, quand on entend parler de l'école, l'école aujourd'hui, elle doit créer des travailleurs. Elle doit provoquer l'employabilité. Et l'employabilité ne fait pas la sociabilité. Et ça veut dire qu'il y a de vrais enjeux pour l'avenir aussi.
Et en plus, elle ne fait pas, même pas, à mon avis, l'employabilité. Parce que c'est une erreur. Parce qu'en fait, justement, dans un monde où tout va changer très très vite, ce qui pourrait faire l'employabilité, c'est justement avoir un socle qui peut s'adapter à tout. Là, on se dit, on essaie de rapprocher l'entreprise de l'école en disant, bah, tiens, ce sera bien parce que tu fais du code, comme ça, tu auras du code. Demain, le code disparaît parce que on n'aura pas besoin de code. Bah, là, pour le coup, s'il y a bien un truc dont on n'aura peut-être pas besoin, bon, je connais pas assez, mais enfin, je vais peut-être dire une connerie.
J'avais invité un chercheur en algorithmie, il dit, il faut que tout le monde sache coder avant de savoir écrire. Il disait, dans 10 ans, on n'a plus besoin de codeurs.
Voilà, je suis rassuré. Et je pensais ça, globalement, je me dis, non, ça, c'est typiquement le genre de truc à la con. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a besoin de code. Justement, aujourd'hui, où on va être obligé de changer de modèle chaque fois, de pivoter, comme dirait notre président, plusieurs fois, l'idée, c'est que il faut au contraire être sur l'humanité, parce que c'est là où tu as le socle le plus large, c'est là où tu peux t'adapter, c'est-à-dire que t'es bon à rien, mais t'es bon à tout, en fait. C'est ça, un peu, l'idée de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, t'as compris un peu les humanités, c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, tu peux un peu comprendre tous les systèmes sans en rentrer dans obligatoirement un système particulier qu'on t'a fait voir comme un peu mécanique et sur lequel tu... Et alors, effectivement, t'as raison, ils sont en train d'aller tout le temps à contre-courant, même si, bon, reconnaissons quand même que, si j'ai bien lu, hein, parce que bon, c'est très contradictoire, ça change souvent, mais ils veulent revenir un peu à des langues anciennes, par exemple, ou des choses comme ça, il me semble. Hein. Mais bon, pareil.
Le pape vient de lancer un podcast en latin. Ça va signer le grand retour, du latin et de tout ce que ça apporte.
Ouais. Mais tu vois, par exemple, les langues mortes, tu vois, par exemple, le latin en grec, moi, je trouve ça super utile, quoi, super intéressant, parce que, justement, tu te dis, tiens, je vais apprendre une... Tu vois, c'est comme si on disait, les échecs, ça doit servir à quelque chose. Non, ça s'ouvre, tu vois, ça t'ouvre aussi sur une compréhension. Bon, moi, je joue pas aux échecs, moi, je préfère apprendre vraiment bien le latin ou le grec, mais tu vois, par exemple, le grec, même la façon de comprendre la temporalité, comprendre des choses, c'est déjà une forme d'empathie, et une empathie sur quelque chose qui est un peu universel, quoi. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est pas obligatoirement, voilà.
Donc on va créer une nouvelle zone à défendre, la culture et les humanités. Une zone à défendre pour 2050.
Voilà, c'est ça, exactement.
pour finir, je voudrais que tu formules un vœu pour 2050.
Un vœu, alors ça c'est difficile parce que tu tombes tout de suite dans le truc, dans la tu vois, un peu la rhétorique, un peu des licences, quoi. mais non, disons que le vœu, ça serait plutôt ça serait plutôt que on arrête plutôt de penser tout le temps que la technologie parce que non, ce qui fait mal, en gros, c'est de penser que la technologie va nous dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est mauvais ? Parce que c'est souvent défendu aussi par des humanistes, souvent en disant oh là là, il faut défendre les enfants face aux fake news, par exemple, et tout ça. Alors que non, on a de quoi se défendre. C'est le problème, il est pas. Mais à partir du moment où on pense que de toute façon, tout est fake news, tout est que les fake news doivent se signaler. Tu vois. Maintenant, voilà, on arrive dans une logique où finalement, il faudrait que les fake news se disent en tant que fake news.
Bon, ça vienne avec un petit drapeau.
Ça soit avec un drapeau. Ça y est, je suis une fake news. Bon, si c'était aussi simple que ça. Puis l'idée du vrai, du faux, moi, ça m'a gavé cette histoire de post-vérité, parce qu'avant, on n'était pas dans la vérité. C'est comme si on était dans la vérité. Sinon, il n'y aurait pas eu Kant, il n'y aurait pas eu Platon. Tout ça. C'est le problème de la vérité, c'est toujours posé. Donc, c'est complètement subtil. Voilà, ce qui m'énerve, c'est ce côté. J'aimerais que le côté, c'est pas tellement. Alors, le côté utopiste me gave, parce que dire demain, on va tous être petites poussettes. Ça, c'est un peu le côté qui pouvait un tout petit peu m'énerver de temps en temps, mais c'était pas le fond de sa pensée. Mais ce côté, genre, de toute façon, la technologie fait que demain, les enfants sont plus intelligents. Non, ils sont pas plus intelligents, mais ils sont sont pas plus cons, ça, certainement pas. Et ça, c'est absolument pas le cas. Mais l'idée, c'est surtout de se dire que... l'idée, ça serait de penser que même... tu vois, par exemple, même on croise donner bonne conscience en disant, voilà, regarde les GAFA comme elles sont dystopies. Moi, j'ai donné aussi là-dedans, je donne aussi de temps en temps sur le côté complètement dystopie. Mais l'idée, c'est qu'on oublie qu'il y a un moment donné... Nous, on a une force en tant qu'être humain, et souvent, même les humanistes qui se prétendent humanistes, ils veulent protéger justement les gens en disant « oui, il ne faut pas qu'on les expose aux fake news parce qu'on leur met des conneries dans le crâne ». Mais non, mais ça veut dire que tu n'as pas confiance, c'est-à-dire c'est une sorte de catch-22, quoi. C'est-à-dire c'est une sorte de paradoxe, c'est que si tu as confiance en l'homme, tu dois penser qu'il a suffisamment d'intelligence pour savoir que c'est une fake news, ou savoir que c'en est une, mais même s'il continue à la mettre. Que c'en est une, mais c'est parce que ça participe du jeu et que c'est sa façon de faire la chose. Mais ne pas croire que, voilà, ils sont contaminés. Voilà, l'idée, c'est la bêtise qui contamine. On pense que le faux contamine les gens. Non, ça ne contamine pas les gens. Ils ont aussi une responsabilité. Je pense qu'il faut, voilà, le vœu, ça serait de responsabiliser un peu tout le monde, d'arrêter de penser que, ouais, et responsabiliser un peu les gens. Si on n'arrête pas, comme dans l'intelligence artificielle, dire il va vous retirer votre job, parce que voilà, le côté, je termine juste là-dessus, le côté qui est assez dangereux, justement, dans l'IA, c'est de dire attention, les robots vont vous piquer votre job, donc soyez performants. C'est-à-dire le côté qui est flippant, c'est pas que les robots viennent te prendre le job, c'est qu'on t'assigne à être performant dans la performance robotique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, soit de plus en plus
un robot si tu veux
un
pas
robot
un
si tu veux pas qu'un robot te
vienne pas, alors que c'est le truc complètement con.
Et c'est ça qui est en train de se passer, et tous les gens qui disent mais attention, faut qu'on fasse vite sur l'intelligence artificielle, sinon on va se faire doubler par les Chinois, par Google et tout ça. Faisons vite, on est toujours en retard. Alors toujours le côté aussi, tu sors un gros truc en disant oh là là, le retard qu'on a dans l'intelligence artificielle et tout. Non, moi je pense qu'au contraire, il faudrait qu'on ait qu'on assume totalement ce truc-là, et que justement c'est pas et plus on dit voilà, il faut avoir peur là-dessus, plus c'est parce que si tu veux, ça a beau être vers le futur, c'est pour ça que ça rejoint un peu ton thème, ça a beau être vers le futur, ça fait du mal dès maintenant, quoi, en fait.
Merci beaucoup, Paul.
Ben, merci, à toi.
Et puis, on peut faire le vœu qu'en 2050, on continue à faire de la sociabilité autour d'un verre de bière.
Voilà.
On va trinquer pour que ça s'entende. Merci,
merci,
Nicolas.
Merci à toi.
Et vous, il vous inspire quoi, ce mot sociabilité, dans le futur ? Un concept toujours plus virtuel ou une réalité physique qui se touche, se voit, se ressent? Moi, je retiens tout particulièrement quatre idées pour avancer sereinement et construire le monde qui vient, celui de 2050. Paul Vacca nous invite à laisser derrière nous cette idée d'un paradis pré-numérique qui n'a finalement jamais existé, d'avancer vers ce 2050 armé d'humour, armé également de responsabilité, et puis aussi de savoir retrouver le goût du soin de l'autre. Et oui, jouer collectif, quoi. En tout cas, là, maintenant, les beaux jours sont là. Le moment idéal pour un livre à la main, par exemple, flâner et peut-être faire une rencontre inouïe autour de vous, dans ce bus, ce parc, cette salle d'attente, cette terrasse de café, ou entre les lignes posées là juste devant vous. C'était le 74e épisode de Hashtag 2050, le podcast. Durant l'été, n'hésitez pas à aller retrouver l'abécédaire du podcast sur mon site web rebeccaarmstrong.net pour choisir les épisodes à écouter, à découvrir en fonction du mot choisi par chacune et chacun des invités. Ce faisant, vous verrez, les semaines défileront vite et nous nous retrouverons déjà en septembre. En septembre avec des nouveautés. Je vous expliquerai tout ça fin août dans un court épisode de présentation de la saison 3. J'ai hâte, mais prenons le temps. Et surtout, soyons toujours curieux.